100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean Saraméa, historien, raconte les années décennales anniversaires de 2024.
Bonjour à toutes et à tous. On va se projeter 80 ans en arrière et je vais vous détailler un événement politique ou géopolitique largement oublié, mais qui a eu son importance. Qu'est-ce qui m'y a fait penser? Bien, toutes ces émissions de radio ou de télévision, surtout pendant l'été, avec les commémorations de libération. Mais que se passe-t-il dans les mois qui suivent? Parce que la guerre n'est pas terminée. La guerre se termine le 8 mai 45. Donc, plaçons-nous fin novembre, début décembre 44. Entre le 24 novembre et le 16 décembre, le général de Gaulle, qui a été désigné chef d'État provisoire par l'Assemblée consultative provisoire, puisqu'il n'y a pas encore d'élection, les premières élections, qui seront les élections municipales, ce sera fin avril, début mai 45. Alors, de Gaulle a demandé à Staline de le rencontrer. Staline a dit oui, assez facilement, disons que ça correspondait aux 20 ans, donc une sorte d'anniversaire, aux 20 ans de la reconnaissance par la France de l'Union soviétique, 1924. Donc ça pouvait être un argument de rencontre. Mais en réalité, il y a des enjeux beaucoup plus profonds et importants. Alors, tout d'abord, le voyage. De Gaulle part de France le 24 novembre, par avion, jusqu'au Caire. Le hasard veut que ce soit le même jour que la libération de Strasbourg par la 2e DB du général Leclerc, date importante. Au Caire, il prend un autre avion pour Bagdad, puis pour Téhéran, il y est le 26 novembre. Ça s'explique, il n'est pas question que l'avion et le général de Gaulle traversent les zones de combat en Allemagne ou dans la future Autriche. Ensuite, il arrive au sud de l'Union soviétique, il arrive à Bakou, sur les bords de la Caspienne. Là, Staline lui a envoyé un train spécial qui, évidemment, va lui faire visiter les ruines de Stalingrad. Et ensuite, il y a un train plutôt luxueux qui fait Stalingrad-Moscou, où de Gaulle arrive, semble-t-il, le 2 décembre, ou la veille. Il va y avoir des discussions jusqu'au 8 décembre, des discussions ardues, avec directement entre chefs d'État, c'est-à-dire entre de Gaulle et Staline, mais aussi ils sont entourés de personnalités. Par exemple, de Gaulle a emmené avec lui le général Juin, qui est une des trois grandes personnalités militaires de la fin de la guerre, avec Delattre de Tassigny, Leclerc et Koenig, qui a dirigé les FFI. Donc ils sont quatre. Là, Juin a participé à toutes ces discussions, et dans ses mémoires, il les décrit très précisément. Donc, longue discussion, avec évidemment des idées sous-jacentes. Le but concret, c'est de signer un pacte de sécurité mutuelle. Bon, en réalité, c'est un pacte d'assistance mutuelle contre l'Allemagne. La guerre n'est pas finie. Et on discute entre équipes, mais aussi entre De Gaulle et Staline, on discute des possibles futures frontières de l'Allemagne vaincue. Donc, même si les décisions ne sont pas prises là. Il faut dire que De Gaulle se doute que les chefs alliés, c'est-à-dire Churchill, Roosevelt et Staline, se rencontreront tôt ou tard pour dessiner l'Europe d'après la défaite allemande. Ce sera Yalta, mais on ne le sait pas, on est plus de 2 mois avant, et De Gaulle sera extrêmement vexé de ne pas y être invité. On peut supposer qu'en tête-à-tête avec Staline, de Gaulle a suggéré sa présence lors des grandes négociations de la fin de la guerre. Il faut dire que Staline n'était pas vraiment opposé, mais c'est Roosevelt qui ne voulait absolument pas de Gaulle, d'où l'idée importante de Gaulle, il recherche une légitimité internationale. Parce que il n'y a que quelques semaines que les alliés anglo-saxons l'ont reconnu comme chef de la France. Ça avait mis beaucoup de temps. Churchill l'avait soutenu depuis fin juin 40. Mais Roosevelt n'avait aucune confiance dans le général de Gaulle. Pourquoi ? Peut-être ses conseillers l'avaient mis en garde. Parce que pour Roosevelt, un militaire à la tête d'une démocratie, c'est quelque chose de tout à fait anormal. Et Roosevelt a très longtemps dénié toute légitimité au général de Gaulle. Il a fallu tout le poids du général en chef, Eisenhower, pour expliquer à Roosevelt que, quand même, de Gaulle représentait la France, il représentait l'ensemble des partis démocratiques, depuis l'Assemblée consultative à Alger, et surtout il rassemblait la résistance. Et cette résistance avait été très utile aux Américains, que ce soit le général Patch ou Eisenhower ou Patton, ont félicité la résistance française et son rôle dans la libération de la France. Mais, de Gaulle est à la recherche d'une légitimité un petit peu plus solide, et en prenant langue directement avec Staline, c'est une façon, peut-être pas de se venger, mais de faire pression sur Roosevelt pour lui faire comprendre qu'il n'est pas tout seul parmi les alliés. Voilà. Deuxième idée, les questions internationales. La France avait donc depuis 20 ans reconnu l'Union soviétique et il est évident que la paix sera signée par les alliés, y compris l'Union soviétique. Donc de Gaulle veut s'insérer dans ces relations internationales qui sont en train de se construire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Troisième idée, et elle est très importante, c'est un enjeu de réconciliation de la France à l'intérieur. Pour deux raisons. D'une part parce que toutes les études, tous les sondages de l'époque montraient que le Parti communiste avait un énorme succès. Et aux élections de 1945, il va frôler les 25% des voix et garder ces 25% des voix pendant plus de 10 ans, y compris avec le vote des femmes, puisque ce sera la première fois au printemps 45. Donc, de Gaulle a craint, mais vraiment craint, pendant toute l'année 44, que cette grande popularité du Parti communiste, d'une part, ne lui fasse de l'ombre, mais aussi que le Parti communiste, surtout dans pas mal de régions du centre-sud, du sud-ouest, que le Parti communiste prenne le pouvoir, tout simplement, parce qu'il a des armes, les armes de la résistance, parce qu'il a joué un rôle important dans la libération de plusieurs régions, il n'était pas le seul, mais c'était les maquis FTP qui étaient extrêmement disciplinés, extrêmement actifs, et lorsque des représentants du général de Gaulle voyagent en province en septembre, octobre, novembre 44, ils sont souvent très mal accueillis par la population qui, au contraire, applaudit les chefs communistes. Donc, de Gaulle sait très bien que seul Staline peut faire obéir le Parti communiste. Ce n'est pas lui, c'est pas de Gaulle qui peut donner des ordres au Parti communiste. Donc, il y a là une négociation, et en filigrane, il y a le problème du chef du Parti communiste, Maurice Thorez. Maurice Thorez, qui était très connu dans les années 30. En 39, il avait été mobilisé, et il avait déserté. Donc, aux yeux de la loi et aux yeux de l'armée, c'est un déserteur. Il est parti toute la guerre à Moscou, où il s'est très bien comporté, où il a été formé également à l'idéologie. Et le problème, c'est que pour diriger le Parti communiste, il faut qu'il rentre en France. Il y a même, juin en fait écho, à un moment, Staline pour que De Gaulle l'entende, dit « les Français vont le fusiller en tant que déserteur ». Donc, il y a une sorte de négociation. De Gaulle va accepter le retour, pas dans son avion, hein, il va revenir quelques semaines plus tard, le retour de Torres, mais Staline a sans nul doute expliqué à Torres qu'il ne s'agissait pas de prendre le pouvoir, qu'il fallait obéir à De Gaulle, et qu'il fallait contrôler le grand syndicat le plus proche du Parti communiste, la CGT, pour qu'il n'y ait pas de grève et que la France se reconstruise. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. De telle sorte que pendant à peu près 2 ans, le Parti communiste joue le jeu de la démocratie, des élections, il ne songe plus à prendre le pouvoir, Staline lui a interdit. Comme au Parti communiste belge, qui était aussi important, et comme au Parti communiste italien, qui était très important, lui aussi. Disons que Staline est pragmatique, hein. Il ne va pas donner l'ordre de déclencher une révolution quand l'armée rouge est à des centaines de kilomètres. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun appui, et surtout dans des pays, Belgique, France et Italie, où les Américains sont fortement présents. Donc ce n'était pas le moment. Donc voilà tous les sous-entendus. Mais il y en a un dernier, c'est que Staline veut faire signer le général de Gaulle comme quoi la France accepte que la Pologne soit dirigée par un gouvernement communiste, ce qu'on appelle le gouvernement de Lublin ou Lublin, que Staline a mis en place. Et évidemment, Staline sait qu'il va incorporer la future Pologne dans ce qu'on appellera le bloc de l'Est, sous contrôle de Moscou. Et là, de Gaulle va refuser très nettement, et il ne signera aucun texte dans ce sens, d'une part parce que ça ne repose pas que sur lui, loin de là, ça repose sur tous les alliés, mais Staline n'arrivera pas à faire signer par la France cette acceptation d'une Pologne communiste. Voilà, quelques rappels historiques, peut-être un peu difficiles et un peu lointains, mais qui, à ce moment-là, ont joué quand même un rôle important, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, de la France. Il y a 80 ans, c'est quand même pas il y a des siècles. Merci de votre écoute.
Cent ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturels. Jean Saraméa, historien, raconte les années décennales anniversaires de 2024.